Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Nous réalisons une émission spéciale dans l'espace parenthèse de la bibliothèque universitaire Droit-Lettres, car nous nous joignons à une rencontre littéraire avec Louise Rose. Bonjour.
Bonjour.
Cet entretien sera mené par deux enseignants et enseignantes chercheurs, chercheuses. Maud Le Cacheur, bonjour.
Bonjour.
Et Laurent Demanze, bonjour.
Bonjour.
Louise Rose, vous avez sorti à l'automne un premier roman, Les Projectiles, un récit d'enquête suite à une disparition. Et depuis le mois de mars et jusqu'en juin, vous êtes en résidence à Grenoble pour écrire votre nouveau roman. Nous allons donc tenter de comprendre ce qu'il y a derrière cette fabrique d'écriture. Et pour en parler, je laisse les deux enseignants se charger des questions.
Merci beaucoup Julie. Je crois qu'en fait le micro ne fonctionne pas du tout. Ok, je parle quand même dedans. Merci beaucoup à Julie Blasco, merci à Karine Dinka qui est juste là, donc qui est chargée des affaires culturelles de la ville. Merci à Héloïse Fèvre d'avoir accepté qu'on organise cette rencontre ici à la bibliothèque Droit-Lettres. Et merci à Louise Rose d'avoir accepté de se prêter au jeu de cet échange. Donc, pour lancer la discussion, je vais commencer par présenter un petit peu Louise Rose, parler de son parcours, parler un petit peu de son premier roman, et puis ensuite on va ouvrir l'entretien en revenant à la fois sur les enjeux qu'est-ce que c'est qu'une résidence d'écriture, et aussi sur la question de la fabrique du deuxième livre, puisqu'on a choisi de déplacer un petit peu la perspective en parlant peut-être moins du premier roman que de la fabrique de celui en cours. Donc effectivement, comme Julie l'a rappelé, Louise Rose est accueillie ici pour une durée de trois mois et demi, de mars à juin, donc en résidence avec la ville de Grenoble. Et je reviens rapidement sur son parcours parce que ça me semble intéressant aussi pour les étudiants et les étudiantes qui s'intéressent de plus en plus à la création littéraire, à la fabrique de l'écriture. Donc tu me corriges si je me trompe, mais tu as fait une formation aux Beaux-Arts d'abord, et puis ensuite un master de création littéraire, le master du Havre. Et tu as notamment été accompagnée pour l'écriture de ton projet par Frédéric Forté, qui est à la fois poète, oulipien et un auteur donc, de la maison d'édition POL. Et donc c'était l'occasion au cours de ce master de travailler sur le premier roman, Les Projectiles. Et d'ailleurs, donc je mentionnais que Frédéric Forté était oulipien, et tu es toi-même depuis janvier dernier membre de l'Oulipo, ce qui est une façon, le fait d'avoir intégré, d'avoir été coopté par l'Oulipo, ce qui est une manière de reconnaître l'inventivité formelle du premier livre de Louise Rose et de ce qui est en train de se jouer aussi actuellement. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans l'entretien. Donc c'est effectivement chez POL qu'a paru à l'automne dernier Les Projectiles, qui est juste là. Et donc c'est un roman qui a été vraiment très remarqué, très salué par la critique. Et je vais en dire quelques mots pour impulser la rencontre. Peut-être d'abord pour dire, Julie le rappelait, que c'est d'abord l'histoire d'une fuite, d'une disparition, celle de bébé, avec un B majuscule, qui quitte son compagnon pour se lancer dans une cavale de plusieurs jours. Et donc cette quête va l'amener à retourner dans le jardin de sa famille d'accueil, où elle a enterré une boîte dans laquelle se trouvent des objets dérisoires, des souvenirs qu'elle a collectés au fil de son enfance. Donc dans cette boîte se trouvent ces fameux projectiles qui sont, je cite la quatrième de couverture, des souvenirs, des traces, des objets et des mots qui déboulent dans le récit et qui apparaissent sous forme d'impact. Mais la façon dont je raconte l'histoire est un petit peu trompeuse, puisque ce n'est pas comme ça que Louise Rose a décidé en fait, d'écrire l'histoire de bébé. Donc ça rejoint la question de la forme dont je parlais. Louise Rose fait le choix d'une narration à rebours, puisqu'en fait on rencontre bébé à la fin de son voyage. Le point de départ est en fait l'arrivée, parce qu'on découvre bébé au moment où elle atteint son objectif, et les chapitres vont donc progresser, ou plutôt remonter le temps, pour revenir en fait à la décision initiale du départ, qui constitue peut-être l'énigme en fait du livre. Donc vous voyez qu'on est sur des motifs de l'enquête, de la disparition. On pourrait croire que c'est un récit qui est inquiétant, mais en fait je voudrais dire tout de suite la très forte tonalité humoristique aussi du livre, qui fait une grande place au burlesque, au potache aussi peut-être, dans le travail sur les personnages et dans l'invention d'une langue qui recrée une forme d'oralité. Et ce qui nous a intéressé aussi avec Laurent, c'est que c'est un roman qui pour nous résonne très fortement avec de nombreux enjeux de la littérature contemporaine à laquelle on consacre tous deux nos travaux. Il y a à la fois la question des désirs de disparaître, et la littérature contemporaine est traversée par ces personnages qui cherchent à se soustraire à une forme d'hypervisibilité médiatique et numérique. Une errance dans une géographie tantôt urbaine, tantôt périurbaine, tantôt rurale. Des manières de repenser aussi ce qu'est une famille et la question de comment faire famille ou l'injonction à faire famille. Une attention aussi au quotidien, quotidien des lieux, quotidien aussi des déchets, en lien avec, on en reparlera peut-être, les arts de la mémoire qui nous viennent de l'Antiquité et qui, depuis l'Antiquité latine, essayent de développer des techniques mémorielles fondées sur la construction d'un palais mental où on va accrocher la mémoire à des objets, à des lieux précis dans lesquels on déambule. Donc voilà pour les projectiles. Peut-être qu'on peut juste rappeler qu'il y aura une rencontre autour du livre après-demain, c'est ça je crois, le 6 mai à la librairie Le Square. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez entendre parler plus longuement Louise Rose de ce premier roman. Et actuellement, donc, Louise est en résidence à Grenoble pour l'écriture de son deuxième livre qui s'intitule provisoirement, mais peut-être pas si provisoirement, Ma vie en slip, ma vie tout attachée, avec le même éditeur. Et donc c'est pour nous une occasion assez rare, assez précieuse, d'écouter une autrice, non pas revenir sur un livre déjà publié, mais sur la fabrique d'un texte en cours, pour évoquer le processus de création, ses lignes de force, ses incertitudes, et puis aussi tous ses possibles. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de cette fabrique en cours en essayant de l'ancrer dans le contexte de la résidence d'écrivain.
Alors justement, on va évoquer peut-être en quelques mots ce qu'est une résidence d'écrivain, d'écrivaine. Peut-être pour recontextualiser les enjeux, ça s'inscrit dans un moment de décentralisation des politiques culturelles, à un moment où il s'agissait de créer un véritable maillage dans tout le territoire de manifestations, d'occasions de rencontres. Et se développent depuis la fin du XXe siècle des rencontres et des résidences pour lesquelles il y a en quelque sorte un double objectif, un double horizon. D'abord, donner du temps pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir un projet au long cours. Et on sait à quel point c'est difficile lorsqu'on a une entreprise d'écriture de pouvoir dérober du temps aux emplois du temps. Et puis, s'accompagne très souvent dans ces résidences une autre fonction qui est une fonction de médiation, une fonction qui est une fonction de rencontre avec différents publics. Alors ces publics sont variés, ce sont des publics que l'on rencontre dans des universités, en librairie, mais aussi dans des écoles, dans des musées. Et c'est le cas pour toi, Louise, puisque pour donner quelques titres ou quelques éléments des rencontres qui vont être l'escansion de ta résidence, il y aura des rencontres à partir de 7 ans à la bibliothèque Mafalda pour un atelier créatif, participation à la nuit des musées, des lectures allongées sur un transat grâce à la compagnie Les Veilleurs, etc. etc. Donc peut-être le premier élément qu'on voudrait te poser, c'était la manière dont tu envisages la sortie du moment de concentration qui est celui de la résidence pour aller vers des publics? Est-ce que ce sont des sorties qui te semblent s'équilibrer dans le temps de concentration, ou est-ce que ce sont des sorties qui viennent susciter des bifurcations, des appels d'air et peut-être aussi quelque chose qui vont nourrir la création et je dirais le désir de concentration qu'on peut avoir pour la création?
Bah bonjour déjà, merci d'être là. Et qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Effectivement, tous ces moments, on va dire, un peu hors création, qui sont des moments de rencontre, ça vient énormément nourrir ce que je suis en train de faire, parce que ça me sort un peu de moi qui suis dans mon projet, qui suis en train d'écrire toutes ces histoires sur ma vie en slip. Et d'un coup, je rencontre des vraies personnes, je fais des choses avec des personnes qui ont des parcours différents, des rapports à la littérature qui sont différents. Et du coup, ça m'apporte forcément des bouffées d'air et aussi beaucoup de choses qui viennent toucher à l'émotionnel, parce que c'est des petits moments comme ça, très très fins, mais où il se passe toujours un petit truc, il y a une phrase qui sort, il y a une réflexion qui vient se coller à ça, donc c'est une bonne manière de m'approprier ma fabrique. Enfin, c'est quelque chose que je découvre là maintenant, que j'ai encore jamais fait. Là, c'est ma deuxième résidence, j'en ai fait une en janvier, mais bon, c'était particulier, c'était dans une abbaye, c'était dans un petit studio où vraiment c'était que de l'écriture, donc j'ai accumulé énormément de textes. Et là, je suis dans une phase de travail où j'ai tous ces textes, je continue d'en écrire, mais il y a un moment, il faut faire le tri, il faut relire, il faut retravailler les choses, voir s'il n'y a pas deux textes qui se font un espèce de miroir, qui peuvent venir se coller ensemble. Et le fait d'avoir des sorties dans tout ça, ça me permet de poser un peu plus le truc et d'être moins dans l'intensité d'une accumulation de matière texte, quoi.
Alors, dans ce que tu dis, moi j'entends deux choses. La première chose, c'est que tu évoquais la résidence que tu as faite à l'IMEC, c'est ça, l'abbaye d'Ardennes, qui est une abbaye qui est un lieu où sont les archives de la création et de la littérature contemporaine. Et très souvent, les résidences sont plutôt essentiellement résidences d'écriture. Là, c'est une résidence qui est écriture, médiation, rencontre. Ce qui me semble intéressant, c'est que dans ce que tu dis, il y a en quelque sorte une dialectique, un va-et-vient entre ouverture et concentration, qui change un petit peu la figure. C'est aussi l'enjeu de ces résidences, c'est de changer la figure de ce qu'est un écrivain, une écrivaine, pas quelqu'un qui serait détaché du monde, mais plutôt en dialogue, en conversation avec les individus qui ne sont pas forcément des grands lecteurs, des grandes lectrices, mais qui ont cette curiosité à un moment. Donc ça, c'est peut-être le premier point, une sorte de déplacement dans la figure de l'écrivain. Et le deuxième élément qui serait une question, c'est demander est-ce que, puisque tu as amassé des textes, on reviendra sur le mode de composition de ton travail à partir de textes qui sont des fragments de 2-3 pages. Est-ce qu'il y a pour toi, au-delà de ce que tu peux aller collecter, recueillir, entendre dans les discussions, des moyens d'expérimenter ou de mettre à l'épreuve ce que tu as écrit dans les rencontres que tu fais?
Alors là, pour le livre que je suis en train d'écrire, pas encore, parce que c'est des fragments. Alors vous les avez vus et je les ai envoyés à une autre personne et aussi à mon éditeur, mais c'est encore quelque chose qui reste très dans l'ordinateur, entre moi et mon ordinateur, quoi. C'est encore ça fait un an et demi que je travaille là-dessus, mais c'est encore très très frais en fait je sais pas encore trop ce que je fais et j'essaye de pas trop savoir ce que je fais pour pas trop cadrer la chose. Mais du coup, c'est pas encore quelque chose que j'amène dans des rencontres. Dans les rencontres, je vais plus parler du premier livre qui est passé de projet à livre et qui du coup a quelque chose d'un peu plus solide, on va dire.
Dans les documents que tu nous as transmis, à Maud et à moi, tu parlais de la résidence comme une dynamique de nouveauté. Mmh. Et tu parlais aussi de la résidence comme un moyen d'être au plus proche de comment les gens se racontent. Et Maud et moi, on avait été frappés par cette formule, c'est-à-dire que Les uns et les autres, nous avons des modes de narration, d'autonarration, de récit que nous faisons. Et on avait le sentiment, ou en tout cas j'avais le sentiment, que le fait de faire des rencontres, c'était aussi non pas simplement de rencontrer des lecteurs et des lectrices, mais aussi d'écouter les manières dont les uns et les autres se racontent pour pouvoir à son tour confronter le mode de discours littéraire avec les narrations ordinaires qui sont les nôtres.
Oui, bah forcément, c'est... Enfin, quand on débarque, moi je ne connaissais pas du tout Grenoble à la base et j'aime bien cette idée de redémarrer à neuf, quelque part, d'être neuf dans un endroit que je ne connais pas. Parce que je trouve que c'est là où on est le plus poreuse peut-être pour s'imprégner de ce qui se passe, pour s'imprégner de la manière dont les gens parlent, pour aller rencontrer des choses qui sont encore inconnues.
Il y a un point qui est souvent évoqué à propos des résidences, c'est comment la résidence est une exigence de déplacement. C'est ce que tu dis à l'instant, c'est-à-dire ça permet de nous défamiliariser, ça permet de regarder différemment des lieux que l'on ne connaît pas à l'origine. En quelque sorte, la résidence, ça nous permet d'être dans un lieu, mais sans l'habitude d'y avoir vécu. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches dans la résidence ? C'est-à-dire cette nouveauté du lieu qui est aussi pour toi, au-delà du rapport au lieu, une manière de se délester des rituels du quotidien et de ce que tous ces rituels ou de cette habitude peut venir comme frein à la création ?
Bah, c'est sûr que ça soulage. C'est hyper, en tout cas pour moi, qui est une grande accumulatrice de choses. Enfin, j'habite au Havre et mon appartement, là, j'ai très peur d'y retourner parce que je vais y redébarquer. Je vais me dire, mais qui habite ici ? Qui accumule autant d'objets et de choses ? Là, au moins, la résidence, je suis venue avec une valise, avec... franchement, j'ai fait un effort pour prendre que deux pantalons et trois pulls. Et du coup, c'est hyper soulageant d'être délestée de tous ces objets. Vraiment, d'arriver dans un endroit où, bon, j'ai très vite étalé toutes mes affaires et j'ai fait plein de dessins, plein de choses. Donc l'appartement est quand même bien rempli. Mais j'ai pas de parasitage du quotidien. C'est-à-dire que je peux très vite m'implanter dans le travail sans être en mode « Ah mais il faut que je trie ça, il faut que je range ça ». Enfin, ça va.
Et sans être indiscret, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu organises ton temps pendant ces 3 mois ? Est-ce que tu as des journées types ou pas du tout ? Est-ce que tu te promènes beaucoup dans la ville ou pas ? Est-ce que tu investis ? Tu me parlais la fois où on s'était rencontrés de la découverte aussi du musée de Grenoble, parce que tu as un lien fort aussi avec les... je ne sais pas si c'était le musée ou le FRAC, je ne sais plus. Mais voilà, aussi ton goût pour les... pour les arts visuels. Voilà, comment est-ce que ça se traduit pour toi, la résidence ? Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans le lieu qui t'a été proposé, l'appartement ? Est-ce que tu en dehors des rencontres, voilà, comment est-ce que tu organises un petit peu ton temps ?
Eh bien, je ne l'organise pas. C'est très au jour le jour. Après, j'ai vraiment un grand besoin de sortir, d'aller marcher. Donc, je fais beaucoup ça. Je vais marcher très, très longtemps en me disant « je vais aller par là ». On verra bien ce qui se passe, ce que je vais trouver en découvrant quelque chose. Et après, non, j'ai pas de journée type. La résidence, elle est rythmée par les rencontres. Et heureusement qu'elles sont là parce que ça me permet de trouver quand même un petit rythme là-dedans. Mais au niveau de l'écriture et de la créativité, c'est vraiment quelque chose qui ne se commande pas. C'est vraiment... hier soir, par exemple, j'ai bossé sur mon texte de 18h jusqu'à 22h, mais je ne fais pas ça tous les dimanches soirs. Enfin, ça vient de « Ah tiens, ce document est ouvert, qu'est-ce que j'ai fait déjà ?» Et puis là, ça change, ça s'enchaîne, il y a un autre texte qui va naître de ça. Mais non, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de protocole. Je pense que c'est un truc que je fuis un peu aussi.
peut-être ça permet, on pourra revenir sur la résidence, mais de faire aussi un petit peu transition vers la question du deuxième livre. Parce que c'était intéressant, au début, tu disais que forcément, c'est différent du premier livre pour lequel, quand tu étais en train de l'écrire, il n'y avait pas déjà d'autres livres parus. Est-ce que c'est plutôt... comment tu appréhendes le fait d'être dans l'écriture d'un nouveau livre, mais aussi présente parce que tu dois faire ce travail de médiation et de valorisation, ou en tout cas de rencontre autour d'un livre qui est déjà passé pour toi. Enfin, comment, j'imagine que ça crée un chevauchement des temps, des projets qui est peut-être pas toujours simple à vivre, ou au contraire, est-ce que c'est aussi une échappée par rapport à ce que tu es en train de faire actuellement ?
Eh ben, c'est assez... Comment dire ? C'est assez déséquilibré, mais l'équilibre se rétablit assez vite. Mais c'est vrai que quand je suis dans un temps où je dois présenter le premier livre, ou en tout cas en parler, je suis là, on me pose des questions, et je me dis « Ah oui, c'est vrai que j'ai écrit ça, mais c'était dans le premier livre, c'est pas dans celui que je suis en train d'écrire. » Donc il faut raccrocher un peu les wagons. Après, ça revient assez vite, parce que ce premier livre, j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire, donc j'ai passé un bon moment dedans. Donc ça finit par revenir, mais c'est vrai que c'est un truc assez instable, où il faut pas confondre ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire, et c'est un petit c'est un double labyrinthe qui se chevauche. Ouais.
Ça crée des sentiments d'étrangeté, je pense, par moments. Parce qu'on te renvoie, en fait.
C'est assez marrant, quoi. Ça crée plein de petites choses un peu contradictoires. De ah oui, mais cette phrase là qu'on me dit, en fait, je l'ai réécrit dans ce que je suis en train d'écrire. Enfin, j'ai des espèces d'effets miroirs parfois qui se font. Ouais.
Peut-être qu'on va, puisque Maud a indiqué la transition, qu'on va maintenant travailler un petit peu sur cette question du deuxième livre. C'est un moment assez crucial dans une carrière d'écrivain ou d'écrivaine, ce deuxième livre, parce que après la reconnaissance du premier, on a, je dirais, une alternative entre soit creuser son sillon, avoir une esthétique propre qu'on va travailler, ou au contraire avoir un désir qui est celui du décalage, d'une prise de distance par rapport à un premier livre qui était bien reçu. On connaît le célèbre mot de Jérôme Lindon des éditions de Minuit, hein, qui invitait à jeter tout de suite le deuxième roman et à passer directement au troisième, pour dire ce caractère nodal. Alors toi, tu n'es pas aux éditions Minute, tu es aux éditions POL, qui ont une autre caractéristique, qui est celle, quand ils acceptent un texte, d'accepter l'intégralité de l'œuvre, une sorte d'hospitalité immédiate donnée à une sensibilité, à une couleur esthétique, à une manière de faire, et qui est donc une confiance d'emblée, qui était celle de Paul Otcharkowski-Laurence et qui est celle de Frédéric Boyer. Est-ce que cette fidélité revendiquée de la part de l'éditeur, c'est quelque chose qui atténue cette inquiétude qu'on pourrait ressentir au moment de l'écriture du deuxième roman ?
Je suis pas sûre que ça l'atténue. Ça vient faire une petite caresse un peu douce de « tu es dans la maison », voilà. Mais le doute est permanent, et je pense qu'il est important, mais j'essaye de garder la fraîcheur, en tout cas, que j'ai eue dans le premier roman. J'essaye aussi de pas trop m'en faire, de me dire que de toute façon c'est un deuxième roman, donc il y aura des attentes peut-être, il y aura des critiques sûrement, mais de toute façon il va y avoir des choses qui vont être dites, voilà, s'il sort. Et il y a un écrivain qui m'a un petit peu suivi quand je faisais la résidence à l'IMEC, qui s'appelle Oliver Roeux, et qui m'a dit en fait, vu que ça va être forcément différent, vas-y à fond et fais-toi plaisir, va au plus loin que tu peux. Et c'est le meilleur conseil qu'on ait pu me donner. C'est-à-dire qu'une fois qu'il m'a dit ça, j'ai débloqué un peu toutes les peurs de mais ça va pas être aussi bien que le premier, ça va être ci, ça va être ça. Et du coup, là, c'est un peu un truc sans filet, mais c'est hyper agréable au final.
Ça me permet, le fait que tu parles de ça, de ce compagnonnage avec Oliver Roeux, donc qui est un autre auteur contemporain. Une question qu'on voulait te poser avec Laurent, c'était la façon dont évoluent, se transforment ou s'infléchissent l'accompagnement ou le compagnonnage, en fait, quand on écrit un livre. Parce que pour le premier livre, c'était... aussi un projet qui a trouvé à s'épanouir dans un cadre institutionnel avec le master de création littéraire. Donc le fait que tu avais un tuteur officiel, donc il y a ce dialogue, en fait, avec voilà, qui est dans le cadre du master. Et puis j'imagine, mais peut-être que voilà, tu pourrais en reparler, l'effet de groupe aussi, puisque les masters de création littéraire, un point souvent sur lequel reviennent les enseignants et les auteurs qui interviennent, c'est de faire groupe, de créer un collectif où les échanges, les retours ne sont pas seulement d'apprenants à enseignants, mais aussi entre étudiants, entre auteurs, qui permettent en fait d'accompagner, de porter le livre par ce groupe-là. Et moi, je me demandais comment est-ce qu'on passe de ça à un deuxième livre où on n'est plus dans le cadre de ce master, justement, donc de cet encadrement. Et tu évoquais effectivement le fait que pour le deuxième livre, tu es accompagné par un autre écrivain, Oliver Rohé. Je voulais te demander comment tu vis ce passage. Est-ce que c'est un saut ou plutôt une continuité du premier livre ancré dans un master à un second livre où on peut-être qui est plus solitaire dans l'accompagnement, et comment ça se précise, comment tu crées d'autres compagnonnages avec d'autres auteurs?
Eh ben c'est sûr que c'est complètement différent, c'est pas du tout le même contexte, et même là le truc qui se passe avec Oliver Rohé, c'était que c'était sur une durée, là ça s'est arrêté parce que je faisais partie d'un parcours qui a pris fin, donc le tutorat, le suivi se termine aussi à ce moment-là, donc là je suis complètement seule dans ce que je fais, et c'est quelque chose qui est assez étrange parce que pendant le master, pendant 2 ans, on partage des textes et c'est vraiment une habitude. C'est vraiment quelque chose de tout à fait normal. On arrive en atelier et puis on a un texte, on le fait lire ou quelqu'un d'autre le lit. Et ça se fait de manière très facile et du coup, il n'y a pas trop de retenue, il n'y a pas trop de pudeur. C'est vraiment en mode j'ai essayé quelque chose, voilà, je vous le présente et puis on échange. Et là, là, le deuxième roman, à part cet interlocuteur qui était Oliver, j'ai personne d'autre et limite, j'ose un peu moins envoyer mes textes. J'ai plus envie de le garder pour moi pour le moment. Donc c'est un rapport qui est différent, mais en même temps, moi, ça m'intéresse assez cet endroit de solitude. Je pense qu'il est important. Je pense qu'il est très en lien avec le livre que j'écris aussi. Donc ça m'inquiète pas trop.
Peut-être d'ailleurs on pourrait se demander, même si ça ne se joue pas du tout au même niveau, si la résidence elle vient pas compenser ou se substituer à cet effet de socialité ou de collectivité qui s'était constitué au sein du master. Alors évidemment tu n'échanges pas les textes que tu es en train d'écrire, mais néanmoins tu rassembles autour de toi, aujourd'hui encore, des lecteurs, des lectrices à qui tu peux parler de manière indirecte de ton travail.
Oui, ça prend des formes différentes, mais je pense que le master, quelque part, il m'a donné un peu ce goût-là de partage, d'échange, de casser un peu les barrières qu'on peut se mettre, de pas oser montrer ce qu'on fait, etc. Je pense que ça a un peu effacé cette partie-là. Après, là, je l'appréhende différemment aussi. Mais je pense que l'enrichissement, il se fait bien autrement, justement, dans le cadre des rencontres et des choses comme ça. Ouais.
Alors, dans les documents que tu nous as gentiment confiés, on lisait que, en fait, l'écriture de tes deux romans n'ont pas été exactement consécutifs, mais qui se sont plutôt superposés. Mmh. C'est-à-dire que c'était au moment où tu terminais les projectiles que des textes sont apparus, mais qui ne rentrait pas dans le cadre du projet des projectiles. Alors je te lis. Pendant que je terminais d'écrire le premier, les textes sont arrivés. Donc il y a quelque chose comme un chevauchement, une stratification entre l'écriture du premier qui est en train de se terminer et puis d'autres textes qui résistent à leur intégration à l'intérieur des projectiles, comme s'il y avait des textes réfractaires, des textes résistants, des dissidents qui ne veulent pas se couler à l'intérieur du premier livre. Est-ce que c'est peut-être ce caractère un peu réfractaire, on entend les textes sont arrivés, c'est-à-dire avec une personnification, peut-être, est-ce que c'est ce caractère réfractaire qui donne envie d'écrire le deuxième, c'est-à-dire se dire qu'il y a quelque chose qui mérite d'être développé, d'être déployé autrement que si j'essayais à toute force de les intégrer dans le premier texte?
Bah, ce qui se passe, c'est que ces textes arrivent et à ce moment-là, il y a un truc un peu évident de s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie d'être là, mais c'est peut-être pas le bon endroit et pas le bon moment. Mais de toute façon, par la force des choses, ils viennent atterrir dans les carnets ou sur l'ordinateur. Donc à un moment, ils vont être retravaillés. Après, je pense qu'en terminant d'écrire les projectiles, quelque part, j'avais envie de terminer d'écrire ce livre parce que ça faisait 2 ans. Et 2 ans à passer avec un personnage et ses aventures, bah c'est fatigant quoi, d'être tout le temps en colocation avec bébé. Enfin voilà. Et du coup, j'étais un peu dans ce truc de faut sortir de cette zone. Et les textes viennent faire ça. Mais même au début, au tout début, quand je terminais d'écrire les projectiles, j'avais commencé un projet de roman graphique et j'avais fait tout un inventaire d'objets un peu chelous et j'avais écrit sur ce carnet « Ma vie en slip, inventaire ». Et j'ai aussi après écrit des textes et je me suis dit « Mais en fait, là, le personnage dont j'écris les textes, c'est peut-être ma vie en slip, quoi ». Et donc le lien s'est fait comme ça, mais c'est plein de choses qui se font écho, quoi.
En fait, ce que tu dis, ça rejoint la remarque que Maud faisait tout à l'heure sur le fait d'être en résidence pour le second roman et de parler, d'être amené à évoquer le premier, ces effets de superposition, c'est-à-dire qu'on ne conçoive pas la création littéraire comme des temps qui soient des temps cloisonnés, mais souvent des temps avec plusieurs chantiers, plusieurs tiroirs, avec aussi des écoutes, des paroles ordinaires, des modes d'autonarration. Et donc, la grande difficulté, j'imagine, pour toi, c'est de trouver cette gestion des espaces de parole, des espaces de discours, pour qu'ils puissent à la fois se nourrir les uns les autres, mais pas être en confrontation ou être en conflit.
Oui, il y a de ça. Et puis, moi, je trouve le plus difficile, en fait, là-dedans. Enfin, c'est difficile, mais c'est pas non plus une souffrance, mais c'est que c'est jamais terminé. C'est-à-dire que le premier livre, quand je l'ai eu entre les mains, d'ailleurs, il est là, il est tout crade. Et en fait, je l'ai relu. Il y a un petit pansement, ouais. Il y a des dessins et tout. Mais en fait, quand je l'ai eu entre les mains, je l'ai relu dans le train et j'ai commencé direct à corriger les coquilles et puis à lire des phrases, à me dire mais non, mais ça va pas, c'est nul. Et à réécrire dans mon premier livre, de réécrire mon livre dans le livre. Et ça, ça s'arrête jamais. Et c'est à la fois trop bien et hyper difficile, quoi.
Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir donc, sur le document que tu nous as transmis. Donc, qui est donc pour expliquer aussi au public, qui est un retour sur ce deuxième projet pour aussi de futures résidences. Tu évoques donc le mode d'écriture de Ma vie en slip. Tu dis au moment où tu écris ce projet, tu as une cinquantaine de fragments qui font autour de 1 à 3 pages. Et ce qui m'a frappé, c'est que tu parles de particules pour ces textes-là, et donc on voit aussi peut-être le lien, enfin des projectiles aux particules, c'est évidemment pas la même chose, mais il y a évidemment des échos, des particules qui vont évoquer une personne, alors tu disais voilà, ma vie, inventaire, une couleur ou une atmosphère. Ce travail sur la particule, sur les projectiles, sur le fragment, ça rejoint un petit peu ce que disait Laurent, l'intérêt que tu as pour la manière dont les gens se racontent et le fait aussi que les personnages tels que tu les construis ou ton travail d'écriture renvoie à une mémoire qui est souvent, on a l'impression qu'il y a une mémoire non linéaire, une mémoire partielle, une mémoire qui fait place au manque. Et de ce point de vue-là, on avait noté avec Laurent une citation dans ton dossier qui nous semblait assez significative. Tu écris « L'un des sens qui se dégage dans l'écriture de ce projet, c'est qu'on ne connaît les gens que par fragments, même nous. Nous sommes les seuls à être nous-mêmes. Pourtant, on a des parties de nous qui nous échappent. » Voilà. Est-ce que tu voudrais revenir un petit peu sur cette dimension-là qui semble assez... J'ai l'impression que ça fait lien aussi entre tes deux livres.
Tu veux dire la question du fragment?
Oui, la question du fragment qui est formelle, mais qui renvoie aussi à un point d'interrogation sur l'individu, sur la façon dont on perçoit les autres et dont on se perçoit aussi nous-mêmes, comme si on n'avait qu'un accès toujours incomplet, en fait. Ce qui appelle une forme aussi qui va qui va travailler ça.
Ouais, bah justement, c'est ça qui m'intéresse là dans le second roman que je fais, c'est d'aller un peu chercher qu'est-ce qui se passe autour de nous quand on n'est pas vraiment nous, ou comment on peut prétendre à dire des personnes, mais elle, je la connais par cœur, alors que c'est pas vrai, on connaît jamais quelqu'un par cœur. Enfin, pour moi, ça me paraît impossible. Et j'essaye de reprendre un peu toutes ces expressions, d'aller les décortiquer et d'aller dans une espèce d'intimité qu'on soupçonnerait pas vraiment. Enfin, c'est aussi qu'est-ce qu'on laisse transparaître de nous, quels sont un peu nos débris qui s'échappent comme ça. Enfin, j'ai encore beaucoup de mal à l'illustrer parce que ça vient aussi jouer sur la mémoire, les souvenirs, comment ça se fait. Je sais pas, moi je prends un exemple personnel, je me souviens de tous les noms des élèves qui étaient dans ma classe en sixième. À quoi ça me sert? Pourquoi je retiens ça?
Mais que en sixième.
Mais pourquoi? Enfin, et comment il y a des choses qui viennent se marquer comme ça dans notre mémoire, où on se souvient parfois de choses complètement dérisoires. Enfin, qu'est-ce que ça vient faire là, quoi? Ça m'interroge beaucoup, et voilà.
Et ça, ce qui est frappant aussi dans ce que tu dis là, et ce que tu disais tout à l'heure, tu disais voilà, j'en peux plus de vivre en colocation avec bébé, ça fait 2 ans, il faut que ça s'arrête. On a l'impression, on va revenir peut-être après sur la forme que tu travailles pour le deuxième livre, mais ce qui me semble intéressant, c'est aussi que on a l'impression que ton écriture, mais peut-être que je me trompe, elle part aussi du personnage et des noms des personnages aussi. On a l'impression que le nom est vraiment quelque chose qui va appeler à être déplié, creusé, développé, justement par petites intrigues, par petites touches. Et c'est le cas pour dans les projectiles, où on a ce personnage de bébé, on a aussi Tonton Bermuda, le Jérôme, enfin voilà, vous entendez en fait dans ces noms la dimension aussi humoristique, et le nom va aussi parfois renvoyer un rapport au langage chez les personnages. Pour le deuxième projet, tu évoques donc Ma Vie, hein, tout attaché, le personnage de Ma Vie, ses parents Stéphane et Amélie, le chat Pâquerette avec un K, ou Andy avec 2D qui ne finit pas ses phrases. Donc on voit en fait comment la manière de faire personnage, elle peut varier. Parfois c'est voilà, un certain rapport au langage ou une certaine manière de parler. Et pour Ma Vie, peut-être, parce que je suppose que tout le monde a envie de savoir pourquoi Ma Vie, voilà, donc tu évoques le fait que tu aimes nommer aussi tes personnages d'après un surnom. Pour Bébé, c'est le cas aussi. Et pour Ma Vie, tu évoques le fait que c'est un surnom qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux, le fait d'appeler ses amis ou des proches Ma Vie, donc comme un surnom un peu affectueux, mais qui a aussi quelque chose de très fort dans l'appropriation, comme tu venais de le rappeler. Et donc voilà, moi ce qui m'intéressait, c'est que dans ces surnoms, il y a à la fois une dimension un peu orale, très familière, quotidienne, de l'humour, de la tendresse, ce qui est assez frappant, je trouve, dans tes personnages, mais il y a aussi quelque chose de très énigmatique en fait, parce que dire bébé ou ma vie, finalement, ça laisse beaucoup d'opacité. On ne connaît pas le vrai nom, s'il y a un vrai nom de ces personnes-là, et ça renforce quelque chose d'assez mystérieux.
Bah, moi-même, je sais pas si c'est leur vrai nom ou pas à ces personnages, et à vrai dire, ça m'est, c'est pas que ça m'est égal, mais c'est un peu un détail. Enfin, j'aime bien en fait l'idée que c'est opaque. Mais en même temps, ça laisse de la liberté aux gens de s'imaginer à quoi ces personnages ressemblent. Enfin, il n'y a pas un truc de prénom. Souvent, on peut associer un prénom et faire très vite un cliché de la personne en disant « Ah bah, toi, t'as un prénom composé, donc tu viens d'une famille aisée, etc. » Et j'ai pas envie de tomber dans ces trucs-là. J'ai plus envie d'être dans un rapport peut-être humoristique et ludique, et en même temps je trouve ça très fort. Bébé et Ma Vie, c'est un peu la même catégorie. Enfin, je pense que le Ma Vie qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans la rue et partout dans les espaces, c'est un peu l'ancien bébé en fait. Enfin, ça a migré aussi, et ça m'intéressait pas mal. Je trouvais ça assez symbolique d'avoir ce personnage qui s'appelle Ma Vie, parce que justement, il y a toute cette question de la vie, de la mémoire, des fragments, et c'est quoi raconter sa vie, c'est quoi, enfin là c'est surtout qu'est-ce que je vais dire de ma vie, quoi.
Cette question des noms, elle est vraiment importante en littérature et dans l'écriture romanesque. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un instant. L'onomastique du personnage, habituellement, il est convoqué ou sollicité pour créer un univers référentiel, réaliste. Voilà, le prénom, le nom, immédiatement, ça va situer socialement, ça va être presque un horizon de récit qui nous est proposé. Là, au contraire, le fait que, comme le disait Maud, il y ait une dimension d'oralité, d'expression familière qui soit là, immédiatement, esthétiquement, ça te permet d'être en porte-à-faux par rapport à un récit qui serait un récit réaliste. On pense évidemment, avec ma vie, à des personnages comme Zazie, hein, où on entend aussi... Voilà, et le goût que tu as pour l'oralité, le travail sur la langue orale, ça vient aussi en quelque sorte être marqué dès le nom. C'est-à-dire que dès le nom, on voit comment tu proposes une esthétique.
Bah, c'est aussi surtout que des fois j'ai une idée comme ça d'un nom d'un personnage ou alors une expression, un jeu de mots. Et en fait, j'ai envie de le faire apparaître dans le texte, donc ça va devenir limite l'épicentre du texte et ça va être un prétexte pour construire tout le texte autour. Mais parfois, vraiment, il y a des passages des projectiles ou même des passages de ma vie en slip qui partent d'un tout petit jeu de mots que j'ai voulu faire exister et qui, du coup, c'est des pieds comme ça. Et ça me permet d'aller explorer la langue, ça me permet de mettre un peu d'humour plus ou moins réussi, enfin voilà, ça vient générer ça.
Alors peut-être qu'on peut en venir au brouillon et aux documents préparatoires que tu nous as gentiment confiés. Ce qui nous est immédiatement marqué quand on a lu et feuilleté ce que tu nous as proposé, c'est la place du visuel à l'intérieur de ton travail, la place des dessins, la place de l'iconographie, comme si il y avait vraiment une pensée de l'écriture romanesque avec les images, avec le travail de plan, avec le travail de visualisation, de conception imaginaire. Alors Maud a imprimé quelques-uns des... Alors notamment le plan de quand on arrive en ville, en un seul mot, hein, quand on arrive en ville, avec notamment une place des voitures tout à fait particulière. On voudrait peut-être que tu reviennes dessus sur cette nécessité que tu as, ou ce désir que tu as, pour déployer un projet de langue, de passer par le recours à l'image de ta part, que tu dessines, ou que tu vas collecter dans des archives, ou dans des livres d'art, dictionnaires, etc. Qu'est-ce qui est nécessaire pour toi, ce truchement ou ce détour par l'image? D'ailleurs, c'est peut-être pas un détour, c'est peut-être un horizon.
Bah, tu parlais de nécessité, et je pense que c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'à un moment, j'écris, je galère à faire mon maillage, à savoir un peu ce que je fais, et du coup, en fait, il faut faire une pause, il faut passer à autre chose. Donc vient là la pratique du dessin, en fait, pour vraiment poser mon esprit ailleurs. Et souvent, je dessine sans savoir que c'est lié à ce que je suis en train d'écrire. Et puis, en fait, je suis en train de dessiner. Là, je me dis, mais si, en fait, là, je suis en train de faire le plan de mon livre, sans vraiment le savoir. Mais c'est aussi ce qui s'est passé pour les projectiles. Je vais faire passer le tout premier manuscrit. Mais en fait, à l'intérieur, j'avais fait ce qu'on appelle un leporello, et c'est le plan de la ville des projectiles, enfin de la ville, de l'itinéraire de bébé. Mais je peux le faire passer dans le public. Et ça, c'est pareil, ce plan-là, il est venu à un moment où j'écrivais les projectiles et j'en pouvais plus. Il fallait que je sorte de cette zone d'écriture, et du coup, j'en suis venue au dessin de ce plan qui m'a permis, moi, de me repérer dans cette histoire à rebours, et aussi pour le lecteur de se repérer aussi dans l'histoire, quoi.
C'est intéressant parce que quand tu évoquais la fabrique d'écriture, tu parlais de fragments, de trois pages, et donc nous, on a plutôt des imaginaires de montage à partir de là. Et là, plutôt qu'un imaginaire qui soit un imaginaire cinématographique de montage, de séquençage, etc., toi, tu proposes plutôt une représentation qui va être une représentation panoramique, géographique, de plan, de cartographie, qui permet d'agencer et non pas de monter les éléments les uns par rapport aux autres.
Oui, moi, cette étape-là du travail, elle me fait un peu penser au film policier, où on voit les enquêteurs qui ont leur carte et des photos et qui relient tout avec des fils. Et moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça chez moi, mais j'ai une base et après, je me colle des post-it. Et puis je vais aussi avoir une espèce de collecte un peu d'images qui vont faire écho à la structure du livre. Là, par exemple, Pour la petite histoire, pour Ma vie en slip, j'imagine que c'est un peu une tornade, ce roman, avec plein de fragments, ou plutôt les débris que fait la tornade sont les fragments du livre, et par quels fragments on commence pour faire ce montage. Et du coup, j'ai cherché plein d'images qui ressemblent, enfin plein d'objets qui ressemblent à des tornades. Donc j'ai pensé à l'intérieur d'un coquillage, à un fil qu'on regarde au microscope et qui est tout tordu sur lui-même. Et même dans la vie quotidienne, j'essaye d'observer quelles sont les petites tornades, quoi. Quand on mixe des trucs dans un mixeur, ça fait aussi un truc. Quand on vide une baignoire, ça fait aussi un truc. Et il y a ces images qui se répètent comme ça, quoi.
Alors ça nous avait beaucoup marqué, Maud et moi, parce qu'évidemment, comme tu le dis, tu crées des analogies de forme, en quelque sorte, entre la double révolution des escaliers du château de Chambord, un fil de coton observé au microscope, un schéma d'ADN, la columelle d'un coquillage, etc. etc. Et ces analogies formelles, en fait, elles nous ont fait penser à Maud et à moi à ce que cherchait Abby Warburg dans son atlas mnémosumé. C'est-à-dire qu'il allait chercher des gestes, des formes qui traversaient l'histoire de l'art et qui pouvaient composer une contre-histoire de l'art. Et ce que faisait Abby Warburg dans Atlas, c'est exactement ce que tu dis à propos des enquêtes policières, c'est-à-dire sur un même panneau, il mettait toute une série d'images qui avaient des analogies de forme et qui pouvaient entrer en dialogue. Est-ce que ce modèle-là d'Abby Warburg et de l'Atlas Mnemosyné, c'est quelque chose que tu avais rencontré quand tu étais au Beaux-Arts et qui peut travailler ton imaginaire ?
Bah, là, tu viens de me l'apprendre. J'ai même noté, parce que non, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, c'est ce truc, c'est une espèce de constellation.
C'est ça, une constellation de formes à travers l'histoire de l'art pour proposer des circulations formelles qui ne correspondent pas à une histoire de l'art chronologique. Et donc, il va montrer que la danse chez Botticelli, ça a des correspondances dans d'autres aires géographiques à d'autres périodes, sans qu'il y ait des rapports qui soient des rapports de filiation ou de transmission directe.
Donc c'est une histoire de hasard et de synchronicité.
C'est une histoire de hasard. Il parle d'inconscient formel. Okay. Voilà. Et il y a un très très beau livre de Georges Didier Huberman autour d'Abby Warburg qui retrace ça. C'est vraiment formidable. Et en te lisant, puisque lui travaillait beaucoup sur la danse, le motif de la danse, ce que tu fais autour du vertige ou du tourbillon, ça nous faisait vraiment penser à ça.
Ah bah trop bien. Mais encore une fois... Inconscient formel, quoi.
Inconscient formel, complètement.
Je pense
complètement,
qu'il est dans la salle juste derrière, si tu veux le prendre après. Et sur la tornade, je trouvais ça vraiment intéressant parce que donc on voit, voilà, tout à l'heure on parlait des personnages, on parlait des textes qui arrivent, mais on a l'impression que ce qui t'intéresse, et c'est aussi sans doute un lien avec l'Oulipo, c'est la recherche d'une forme en fait. Enfin, c'est que le livre naît de ce besoin d'une forme, de trouver la forme adéquate pour agencer, combiner les choses. Tu parles aussi du travail sur l'aléatoire pour ton deuxième livre, donc il y a ces recherches, en fait, ces expérimentations formelles. Moi, je me disais aussi que la tornade, ce qui est... Peut-être que tu voudras revenir sur le choix de cette forme-là. Je me disais que peut-être par rapport au premier livre, c'est aussi une forme qui renvoie un imaginaire très fort à notre époque, qui dit aussi un état du monde présent. Et dans ton dossier, tu as un petit passage où tu évoques aussi l'état du monde actuel, évidemment la catastrophe climatique. Donc je voulais te demander comment tu travaillais en fait finalement la recherche de formes qui disent aussi quelque chose de notre monde présent.
J'ai envie que la forme de l'histoire et la forme du livre fassent écho aussi à la forme du monde dans lequel on vit. Par exemple, ça s'est passé pour les projectiles où il y avait un écho entre ce que vit le personnage et la structure du livre. Le personnage remonte dans ses souvenirs, remonte dans son enfance, et donc le livre remonte vers le présent, je crois. et là, c'est ce qui se passe dans ma vie en slip avec cette histoire de tornade, c'est-à-dire que je parle de plus en plus du climat. Là, j'essaye d'injecter un peu une tension climatique et qui n'est pas que le réchauffement, parce que moi, j'ai vraiment envie de parler du dérèglement. Et pour le coup, là, dans ce livre, par exemple, je ne sais pas si c'est une contrainte oulipienne, mais j'ai décidé qu'il n'y aurait pas d'oiseaux. C'est-à-dire qu'il fait tellement chaud, le temps est tellement déréglé que les oiseaux ont fui le livre. Et que là, ma contrainte, par exemple, c'est que dans le livre, il n'y a pas le mot oiseau. Alors que j'adore les oiseaux, j'adore parler des oiseaux quand j'écris. Mais là, du coup, il faut que j'en parle autrement. Et j'essaye de parler de toute cette absence en créant des petites tensions, quoi. Mais après, il faut le faire de manière délicate. Enfin, je vais pas écrire à chaque page du livre, il fait chaud, va y avoir une tornade. Enfin, c'est pas comme ça que ça va se passer, quoi. Ça va être très métaphorique, on va dire.
Et cette absence d'oiseaux, elle est intéressante parce qu'il me semble que dans les projectiles, on rencontre bébé face à un pigeon mort ou un pigeon. Enfin, il y a un pigeon en tout cas.
Il y a un pigeon, mais c'est un faux pigeon. C'est une caméra de surveillance.
Ah. Et comment est-ce qu'on écrit l'absence de?
On contourne justement, mais moi c'est ce que j'aime beaucoup faire aussi en écrivant, c'est justement sortir des cases. Je pense que c'est aussi pour ça que, enfin, je pense qu'il y a des auteurs qui arrivent très bien à écrire de manière tout à fait linéaire des histoires qui vont d'un point A à un point B, du passé vers le présent, etc. Mais moi j'y arrive pas, j'ai un besoin de faire du bordel, quoi, là-dedans. Enfin, je pense que c'est assez en écho avec comment je m'organise dans la vie aussi. Je pense qu'il y a des effets miroirs un peu partout, quoi. Mais ouais, faut contourner. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup de contourner, de sortir des petits sentiers, justement.
Est-ce que tu, avant qu'on ouvre au public les questions, est-ce que tu accepterais de nous lire un petit extrait
oui.
du deuxième livre? Enfin, voilà.
Je peux lire un extrait. Alors, c'est la première fois que je lis sur mon téléphone. J'ai pas pris mon ordi. Mais je vais y arriver. C'est un texte en cours d'écriture qui s'appelle « Fait chaud hein. ». Fait chaud, hein. Les gens n'ont que ça à la bouche et la sueur au front. Ah, quand on arrive en ville, ça pue grave, c'est de pire en pire. Les transpirations imprègnent les murs alors que l'été, c'était avant. On s'étonne de la météo fourbasse, on voit encore des glaces, en peau seulement, elles fondent trop vite. Le cornet en gaufrette est tombé depuis longtemps dans l'oubli des choses pas pratiques. On peut plus faire la blague de « t'as déjà vu une licorne en colère ?» qui consiste à poser cette question à la personne porteuse de glace et à la lui coller sur le front côté boule. C'est bien dommage. On s'inquiète du ciel, complètement chaos, comme couvert d'hématomes. Les nuages ont des couleurs qui finissent toutes par âtre. Faudrait que ma vie parte ailleurs, mais c'est partout pareil, fait trop chaud. En plus, elle travaille au bar à ongles. Le temps n'arrête pas les envies de manucure et les besoins d'ice latte with all the toppings. Les cantons arrivent en vilain s'adaptent. Les vêtements toujours plus courts, la surface de peau dénudée s'agrandit plus qu'hier, moins que demain. Ils se baladent avec des mini-ventilateurs rechargeables dans une main, le portable dans l'autre, et leur vie continue, avec la certitude qu'ils finiront toujours par trouver une zone de confort dans les catastrophes. Il y a des coups de vent qui courent dans les rues, forts, très forts, poussent les mémés dans les ordures. L'air est relou comme tout. Les infos disent qu'avec le temps qui fait, une tornade pourrait passer. La ville s'exerce. Badaboum, des alertes dans les baffles, vigilance orage orange permanente, piou-piou-piou, les sirènes, la totale. Restez dans vos baignoires, ne vous approchez pas des fenêtres. Les supermarchés sont dévalisés. Pénurie de sucre, de betterave, ail, farine, pâte, riz. Tout le monde a une impression de déjà-vu. Il n'y a plus de PQ. Quand elle a du temps libre, ma vie descend dans la cave au frais, fabrique un abri pour eux, elle, Nanani, quatre fromanes, Dave, César et le chat sans nom. Une cabane dans la cave, histoire d'être sûr que ça ressemble un peu à un jeu, parce que jouer, c'est peut-être bien tout ce qu'il restera à faire pendant que la tornade emporte la maison, la vraie, au-dessus de leur tête. Screech. Ma vie scotche les cartons qu'elle ramène du bar à ongles, déplie les packs de café, aplatit à pieds joints les colis de fruits, bananes, citrons, pommes, ananas. Clac, clac, clac. C'est une maison marron craft. Chaque tuile du toit est une boîte à pizza. À chaque fois que Kat Froman revient du taf, il ramène une reine sans oignon prédécoupée en 6 parts égales. Ma vie garde la boîte. Elle recouvre le sol avec un grand tapis qui était déjà dans la cave. Les motifs ont des formes géométriques, parfaitement agencées. On dirait une ville vue de haut. Elle a calculé, elle a pu rouler 7 fois sur le sol de tout son long comme une saucisse qui roule sur la grille d'un barbecue l'été. Si elle a pu rouler ainsi 7 fois, ils peuvent bien tenir à 3 allongés, et les animaux se caleront dans les coins. Peut-être bien que les pieds de Kat Froman vont dépasser par la porte, c'est un grand gabarit. Elle met même un paillasson devant, un paillasson Hello, il est un peu grand. Ma vie veut que ce soit carré, alors elle coupe le haut du paillasson. Elle fout plein de coussins dedans pour que ce soit cosy, laisse une place pour une chaise, parce que Nanani voudra forcément mettre une chaise ici, elle pourra poser la cage de César dessus. Ma vie dessine des trucs au feutre sur les murs, elle ne dessine pas très bien, mais ça lui fait du bien de faire. Son kit de choses essentielles, elle l'a posé par terre, à l'entrée. S'il prend trop de place quand ils seront tous agglutinés là-dedans, elle s'assiera dessus, elle le posera sur son ventre quand il sera temps de dormir. C'est une cabane tout en carton, une cabane de petit homme pirouette cacahuète sans boîte aux lettres, pas d'escalier en papier, pas de facteur, pas de facture, plus de système. Ensemble, ils pourront vivre là peut-être pas toute leur vie, mais bien plusieurs jours, ils pourraient disparaître, ils chieraient par la fenêtre. Quant à l'eau, il finirait bien par pleuvoir par-ci par-là, ils n'auraient qu'à tendre une casserole entre deux boîtes de pizza. Et puis les tornades sont des phénomènes complexes mais très brefs. Après ça, il faudra reprendre la vie d'après, la vie la vraie. Retrouver les choses, retrouver des bouts de choses, ne rien retrouver. Ma vie est la seule à descendre à la cave, Nanani ne sait pas. Quand elles ont emménagé ici, pourtant, Nanani a bien vu qu'il y avait une porte. Elle a même dit à ma vie, « T'as vu cette porte, elle a pas de poignée ?» Ma vie a dit vaguement, « Ah oui, ah ouais, tiens. » À cet instant, elle s'en foutait de tout. Des portes, des poignées, elle voulait juste un lit pour elle et Dave, une chambre avec une vue pas trop dégueulasse sur la zone industrielle de quand on arrive en ville. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et bientôt novembre, bientôt 7 mois que chaque matin, le café glougloute dans la machine et fout des gouttes partout sur la crédence. On verra bien si la tornade passe. Pour le moment, ce refuge est un secret entre ma vie et personne d'autre. Voilà.
Merci beaucoup, Louise. Je crois qu'il n'y avait pas d'oiseaux. Il y avait des...
Il y avait les sirènes. Piou, piou, piou.
Merci, merci beaucoup. Peut-être qu'il nous reste quelques minutes si le public a envie de poser des questions, si Karine a envie de réagir aussi. Si...
Oui, bien sûr.
La question est, est-ce que les idées viennent en marchant ?
Les idées viennent un peu quand ça leur chante. Il n'y a pas... Ouais, non, il n'y a pas de protocole, quoi, pour les idées. C'est souvent avec de l'eau. Souvent, quand je fais la vaisselle ou quand je suis sous la douche, je pense qu'il y a un truc où le bruit de l'eau vient couper le bruit du monde. J'ai pas trop comment ça se passe, mais à ce moment-là, j'ai des idées, mais surtout sous la douche. Mais du coup, c'est pas pratique pour écrire. Faut avoir une bonne mémoire.
Peut-être je reviens sur la question, la dernière question, donc comment on se sépare de ce premier livre pour aller vers un deuxième livre, justement ?
Eh bah, la séparation, elle se fait jamais vraiment. Je pense que il y a plusieurs, à mon avis, il y a plusieurs étapes. Là, je suis pas encore toujours consciente de quand je vois mon nom écrit sur mon livre, je suis là, ah oui, c'est moi. Enfin, c'est toujours un rapport un peu étrange. Et en même temps, ça m'a fait du bien un moment de lâcher bébé, de lâcher le bébé, de partir sur autre chose. Mais en fait, ce qui est difficile là-dedans, c'est de se dire, tout ce qu'il y a dans ma tête, une partie de ce qu'il y a dans ma tête devient un moment un objet et des personnes vont y avoir accès. C'est plus ce truc-là qui est un peu étrange, qui n'est pas désagréable, mais qui n'est pas méga confortable non plus. Mais à un moment, c'est là, donc il faut le faire, quoi. Mais j'ai pas une séparation trop difficile avec les projectiles. Je suis contente qu'à un moment, ce soit matérialisé sous forme d'une centaine de pages et je passe à autre chose, quoi.
Est-ce qu'il y aura une deuxième édition étayée avec ou sans sparadrap?
Ça, c'est mon petit sparadrap, moi. On a toujours besoin d'un pansement, hein, on ne sait jamais. Mais non, j'aimerais bien... en fait, avec les projectiles, je me suis laissé des portes de sortie de chaque côté. C'est-à-dire que peut-être à un moment, j'aurais envie d'écrire qu'est-ce qui se passe avant que bébé pète un câble et parte de chez elle, ou qu'est-ce qui se passe... après qu'elle ait retrouvé sa boîte et qu'elle soit face à des flics. Enfin, des deux côtés du livre, il y a des choses à développer. Et il y a peut-être même des personnages qui vont devenir des livres par la suite. Je me dis, bah, Tonton Bermuda, d'où il vient? C'est qui? Est-ce que ce serait pas marrant à un moment de peut-être de le faire réapparaître dans un autre livre aussi? Là, c'est ce que j'essaye de faire vraiment dans un tout petit endroit de ma vie en slip, c'est que... À un moment, on voit bébé. Mais
personnage réapparaissant balsacien.
C'est ça.
Un cycle est en train de se constituer.
Ou les préquels.
Mais c'est fait de manière très, en tout cas très discrète, parce que j'ai pas envie que ça devienne non plus un truc. J'ai envie que ce soit peut-être une petite chose que des lecteurs qui ont lu les projectiles pourront voir en se disant « Ah, mais c'est peut-être... ok, je reconnais quelque chose. » Ou des lecteurs qui n'ont pas lu les projectiles, qui voient autre chose, en fait.
Plutôt la logique du caméo.
Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ouais.
La question se pose sur le processus d'écriture des projectiles. Est-ce que c'est une histoire que vous avez écrite comme elle apparaît dans le livre, c'est-à-dire à rebours, ou bien dans le bon sens, et vous l'avez retournée ensuite pour la version finale?
Et je ne sais plus très bien. Ce que je me souviens, c'est qu'à un moment, j'ai écrit un texte qui s'appelait Yaourt Nature, parce que je donne des noms à mes fragments, à mes textes, quoi. Et ce texte-là s'appelait Yaourt Nature, et c'était vraiment le premier texte qui a lancé les projectiles et qui se retrouve être au final le chapitre 1. Donc le premier... bout de l'histoire, mais le dernier chapitre, moi je m'en mêle à chaque fois, mais non, je crois que j'ai pas écrit dans l'ordre. Je pense que j'ai écrit des parties et qu'à un moment ça s'est organisé, mais j'ai pas eu tout de suite la dynamique d'écrire un roman à rebours. C'est venu se faire au fur et à mesure. À un moment, je pense qu'il y a eu cette histoire de boîte à aller chercher, et je me suis dit en fait, c'est un retour vers l'enfance, donc faut retourner le truc, quoi. Voilà. Mais je me suis bien cassé la tête. Mais j'aime bien.
Merci beaucoup à Louise, merci au public d'avoir été là et d'avoir alimenté aussi la discussion. Et donc, je redis qu'après-demain, il y a une nouvelle rencontre à la librairie du Square si vous avez envie de prolonger la discussion. Et merci encore, Louise, d'avoir, merci encore Louise d'avoir accepté de lire un extrait de ton projet en cours. C'était vraiment une chance pour nous de t'accompagner de ce point de vue-là.
Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup à vous.
C'était notre émission avec Louise Rose en résidence à Grenoble jusqu'en juin pour travailler sur son prochain roman. Merci beaucoup donc à Louise Rose, à Maud Le Cacheur et à Laurent Demanze. Merci à la bibliothèque Droit Lettres de nous avoir accueillis dans l'espace parenthèse. Et merci à Liam pour la technique. Bonne journée et bonne écoute sur Radio Campus Grenoble 90.8.